Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé, bien-être du lundi au vendredi de 15h à 16h. Comme tous les jours, je ne suis pas seule dans ce studio, je suis très bien accompagnée par le docteur d'Europe 1, rien que ça, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Allez, au sommaire aujourd'hui, dans notre grand dossier du jour, on va piquer un petit peu le créneau de nos amis Stéphane Bern et Mathieu Noël, puisqu'on va vous parler d'histoire, plus précisément. On va vous raconter l'histoire de l'hyperactivité. Le TDAH, ses traitements au fil du temps, et vous verrez que notamment au 19e siècle, on en a testé des remèdes plus ou moins fous, du fer, des bains d'eau froide et même du vin pour tenter de calmer les enfants qu'on jugeait trop agités, qui avaient des problèmes d'attention. Alors pour nous raconter ces tâtonnements de la médecine, de la psychiatrie, nous recevrons le docteur Éric Konofal. Il est médecin spécialiste des troubles du sommeil et des troubles du comportement à l'hôpital Robert Debré à Paris. Ensuite, dans notre chronique Les mots du quotidien, on va s'intéresser à un accident redouté chez la personne âgée, la fracture du col du fémur. C'est quoi précisément? Comment l'éviter et surtout comment la soigner? Le docteur Jimmy Mohamed nous dira tout. Et enfin, vers 15h50, comme tous les jours, nous retrouverons la chronique sexo de Catherine Blanc. Aujourd'hui, elle répondra à une jeune femme très heureuse en ménage, mais dans un ménage pour le coup dans lequel il n'y a aucune sexualité.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va démarrer l'émission par cette question de Joseph. Écoutons-la.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. J'espère que vous allez bien. Je suis en télétravail depuis un petit moment, depuis quasiment un an. Et je suis hyper mal installé pour travailler sur mon ordinateur. Je peux pas faire mieux. J'ai essayé plein de techniques différentes, mais je trouve pas. Le problème, c'est que j'ai une douleur qui part du cou et qui descend jusque dans mon coude, donc dans quasiment tout le bras. Qu'est-ce que ça pourrait bien signifier et comment je pourrais traiter ça au mieux et arrêter cette douleur qui persiste? Voilà, je vous remercie d'avance pour votre réponse et je vous souhaite une belle journée.
Alors, pour vous répondre, Joseph, nous avons fait appel à un spécialiste du sujet, le posturologue Olivier Girard.
La réponse qui est intéressante, c'est quel comportement vous créez ces douleurs-là, Joseph? Et à mon sens, là, on a la conséquence typique d'un cercle vicieux dans le haut du corps, qui est quand votre milieu du dos, il est avachi, les épaules partent devant et la tête part devant. Et ça fait des douleurs qui partent dans les extrémités supérieures, éventuellement jusqu'au bout des doigts. Ça s'attaque sur différents fronts. Le premier front, c'est de vous assurer que le bas du dos, il est bien calé. Donc que vous avez un coussin lombaire ou une chaise un peu propre qui vous soutient le bas du dos. Ça aidera le milieu du dos à ne pas s'avachir. Ensuite, il faut s'assurer que vous ne travaillez pas sur un ordinateur portable, parce que ça mettrait la tête devant. Donc, il faut vous acheter un clavier et une souris séparés, de sorte à avoir l'ordinateur portable comme un simple écran. Puis, la troisième chose importante que vous pouvez faire, c'est vous assurer que la souris n'est pas placée trop loin, parce que là, ça arrondirait les épaules à nouveau. Donc, à mon sens, vous commencez par support lombaire, clavier et souris séparés, et faites attention à ce que la souris ne parte pas trop loin.
Voilà, c'était Olivier Girard au micro de Valentin Piovesan. Alors Jimmy, on va prendre une autre question pour vous, c'est celle de Gabriel qui nous a appelé de Perpignan.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. J'ai une petite question pour vous. J'ai lu sur internet qu'il y avait les vaccins avant Covid qui fonctionnaient pas vraiment au top pour les gens qui avaient de la dialyse. C'est le cas de mon papa qui a été vacciné il y a peu. Et c'est vrai ou c'est faux? Et surtout, est-ce qu'on prévoit pour eux une troisième dose de vaccin peut-être? En tout cas, merci beaucoup pour votre réponse et passez une bonne journée. Au revoir.
Alors Jimmy, c'est vrai qu'il y a eu du nouveau ces derniers jours, enfin ces dernières semaines, concernant l'efficacité des vaccins Covid. Alors sur des patients dans un contexte donc d'immunosuppression, d'être sévèrement immunodéprimé, c'est ça ce qui concerne donc les gens dialysés également parfois, il y aurait une réponse qui serait moins forte malgré les deux doses de vaccins, c'est ça?
Exactement, on a plusieurs études qui confirment ça. Alors on a une étude chez les transplantés rénaux, c'est-à-dire des patients qui ont une greffe de rein, qui ont reçu une dose de vaccin ARN Moderna. Et on a regardé leur taux d'anticorps à 28 jours. Et on s'est rendu compte que simplement 11% des patients avaient une sérologie positive après la première injection, contre quasiment 90% en temps normal. Ça veut dire que la réponse immunitaire est moins bonne. Et on s'est aussi rendu compte que chez des patients immunodéprimés, après deux injections, eh bien on avait une réponse immunitaire de 45%. Seulement la moitié des patients avaient des anticorps. Raison pour laquelle on proposera une troisième dose pour certains patients.
Alors, est-ce qu'on a une idée d'ailleurs de pourquoi ça marche comme ça? Comment on l'explique?
Alors, l'atteinte de la fonction immunitaire, elle peut être liée soit à la maladie en tant que telle, qui va baisser vos défenses immunitaires, soit aux traitements qui souvent sont des traitements immunosuppresseurs. Donc c'est une des raisons pour laquelle on pense que les patients sont moins bien protégés avec les deux doses.
Vous l'avez dit, hein, ces patients, il y a une nouvelle recommandation, ils vont recevoir donc une troisième dose, il y a une liste bien précise, hein, on la trouve évidemment sur le site du ministère de la Santé. Il faut la faire quand cette troisième dose, pour ceux qui ont déjà eu deux doses par
la
exemple?
La troisième dose est recommandée 4 semaines après la deuxième dose et elle concerne pour l'instant un nombre limité de maladies, ça va être les patients qui vont être transplantés d'organes, qui vont avoir une greffe de moelle osseuse, qui vont être dialysés. Mais là, on est en train de réfléchir à peut-être étendre ces indications, notamment pour les patients atteints de cancer ou d'autres formes d'immunosuppression. Donc peut-être que les recommandations vont évoluer. Ce qui veut donc dire que lorsque vous avez eu votre deuxième dose, eh bien, il faut demander la troisième dose ou en tout cas la programmer lorsque vous avez le rendez-vous sur Doctolib, chose qui pour l'instant n'est pas le cas.
Bon, encore une fois, ce que vous dites aujourd'hui, ben peut-être que ça changera demain dans le Covid. Hein. Finalement, depuis un an, c'est un peu ce qu'on vit tout le temps. On va quand même le rappeler, Jimmy, l'enjeu de la vaccination dans ces populations que vous venez de citer, il est très important parce que c'est des gens qui sont plus à risque de faire une forme grave.
Hein. Ben c'est ça qui est embêtant, c'est qu'on voulait absolument protéger ces personnes-là puisqu'elles vont faire des formes graves. Et si en plus, malgré la vaccination, malgré deux doses, on se rend compte qu'elles ne sont pas protégées, eh bien malheureusement, elles vont atterrir à l'hôpital. D'où l'idée de renforcer leur système immunitaire. C'est pas que les vaccins sont pas efficace, c'est qu'on a besoin chez ces personnes-là plus fragiles d'une dose supplémentaire.
Pour booster un peu plus, quoi, hein, la
réponse. Et il n'est pas dit que nous, à l'automne ou à l'hiver prochain, nous aurions peut-être aussi besoin d'une troisième dose. Mais encore une fois, à chaque jour suffit sa peine.
Très bien, on verra ça demain. Alors merci beaucoup Jimmy. Si vous aussi voulez nous laisser vos questions, santé, bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout pas d'hésitation.
Europe 1.
Dans un instant, notre grand dossier du jour dans lequel on va parler d'histoire de la médecine aujourd'hui. Plus précisément, de l'histoire passionnante de l'hyperactivité et du trouble de l'attention. On a commencé à s'intéresser à ces enfants TDAH après les guerres napoléoniennes. Et on a testé beaucoup de choses différentes, plus ou moins folles pour les assagir, ces enfants. On va tout vous expliquer. Tout ça, c'est dans quelques minutes. Alors restez bien avec nous sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, docteur Eric Konofal. Bonjour.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Vous êtes médecin spécialiste des troubles du sommeil et des troubles du comportement au Centre pédiatrique des pathologies du sommeil de Robert Debré à Paris. Vous êtes également l'auteur du livre « Histoire illustrée de l'hyperactivité, le TDAH et ses traitements au fil du temps » qui a été publié donc chez Impulsion Naturelle. Alors c'est ce qu'on va faire avec vous cet après-midi, retracer un peu l'histoire de ce trouble qui touche, je le reprécise quand même, environ jusqu'à 5% de la population en France. Alors avant d'arriver à le cerner comme on le fait aujourd'hui, ce trouble, ça a été un très long tâtonnement. Les enfants agités, atteints de nervosité, des problèmes d'attention, comme on les nommait à l'époque, hein, ces enfants touchent à tout. Il faut savoir qu'avant les guerres napoléoniennes, on s'en foutait de ces enfants. D'ailleurs, on se foutait de tous les enfants, en réalité. Hein.
Bah oui, parce qu'en fait, finalement, ce n'était pas une préoccupation particulière. Il aura fallu attendre 800 000 morts, hein, le retour des guerres napoléoniennes, pour qu'on comprenne finalement qu'il manquait des hommes et donc qu'il allait manquer des enfants. Et donc, on a lancé ces campagnes finalement de prévention à l'accident domestique notamment. Pour prévenir les familles, on a éduqué les familles. Et alors, il y a beaucoup d'illustrateurs qui se sont lancés dans la course. On cite les plus connus, Bertal Ratisbonne, qui faisait figurer des petits personnages qui tombaient d'une échelle ou d'une chaise et qui se tuaient finalement. Pour alerter les parents, hein, ce n'était pas forcément les histoires qu'on racontait le soir avant de dormir. Hein,
je ne
serais pas forcément aidé les
attention
enfants.
Attention à ce qui va t'arriver.
Mais voilà, ouais. Mais c'est plus pour prévenir les parents, pour leur dire, voilà, si vous laissez faire tout, ça va mal se finir. Donc après, il y a eu effectivement les médecins aussi qui sont intéressés à ça. On cite souvent le docteur Paul Moreau de Tours qui a écrit un livre qui s'appelle « La folie des enfants » et dans lequel il explique que les enfants agités finalement sont inattentifs et peuvent se mettre en danger. Mais avant lui, d'autres avaient déjà, les illustrateurs notamment, expliqué que effectivement ces enfants-là se mettaient en danger. Voilà.
Et donc les premières descriptions de ces enfants agités qui manquent d'attention, ce sont des philosophes, des aliénistes qui s'en sont chargés.
Absolument.
C'est quoi, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un aliéniste?
En fait, c'est l'ancêtre du psychiatre. Hein. En fait, c'est le médecin qui s'occupe des aliénés, hein, des asiles. Donc après, avec Pinel et Esquirol, on va évoluer, ça va devenir des psychiatres. Hein, mais finalement, c'est les gens qui s'occupent des fous. Voilà, c'est...
Les aliénistes. Alors c'est au XVIIIe siècle qu'on voit naître donc, les premières réflexions sur l'attention. C'est quoi l'attention à cette époque-là? Je crois qu'un parallèle à cette époque-là est fait avec la mémoire, ou plutôt un défaut de mémoire. Hein.
Ouais, alors c'est Théodule Ribaud hein, qui enchaîne finalement les ouvrages à cette dernière partie du 19e sur la mémoire, la volonté et puis l'attention. C'est-à-dire que finalement, on n'est pas capable d'utiliser sa mémoire pour répondre de façon adaptée à quelque chose, peut-être parce qu'on manque de volonté, et puis finalement, il aboutit qu'on manque d'attention. Et c'est grâce à tout son travail qui, qui finalement va porter ses fruits en philosophie, en psychologie, qui va permettre de rattacher finalement la philosophie à la médecine, et ça deviendra la psychologie. Il va créer même d'ailleurs la psychologie, hein, la première école en France en tous les cas. Et donc on va partir sur l'idée de qu'est-ce que l'attention ? Alors c'est un mécanisme qui nous entraîne finalement à répondre effectivement de façon plus ou moins coordonnée sur quelque chose qui nous est envoyé. Et c'est cette idée-là qui va éclore de toutes ces descriptions qui vont mêler finalement mouvement, antagonisme, mouvement et attention. Ça veut dire que quand on bouge, on ne peut pas être attentif, et quand on se concentre, on ne peut pas bouger. Voilà. Et c'est finalement cet antinomisme entre attention et mouvement qui va donner lieu à tous ces intérêts pour les troubles du mouvement notamment.
Donc à cette époque, au XVIIIe et XIXe siècle, ceux qui souffrent d'un problème d'attention sont catalogués comme moins intelligents, ils sont en quelque sorte considérés comme bêtes, c'est ça ? Et souffrant même d'une maladie de l'esprit ?
Alors oui, alors c'est plutôt Esquirol qui dira ça, d'autres le diront pas aussi bien, parce que en fait finalement on comprend que dans l'intelligence il y a aussi l'utilisation et la concrétisation. Ça veut dire qu'on peut partir, Dupral l'explique d'ailleurs dans un de ses traités, où il explique que finalement on part avec une idée et on va pas aboutir à cette idée, c'est-à-dire qu'on perd quelque chose. Donc est-ce qu'on le perd parce que on l'a pas bien écouté, on l'a pas bien vu, ou est-ce que parce qu'on n'a pas un cerveau suffisamment intelligent? Donc en fait il va y avoir plusieurs courants derrière tout ça qui vont mener des études. Alors des fois c'est en post-mortem, on regarde un peu comment est fait le cerveau, des gens inattentifs, des gens débiles, des gens qui manquent d'intelligence, qui sont considérés comme idiots. Donc il y a tout un foisonnement de termes qui sont utilisés pour caractériser. Et finalement à un moment donné on va se rendre compte que ces enfants qui perdent finalement l'objet même de la nature de ce qu'ils doivent faire sont finalement intelligents. Ils peuvent être imbéciles, ça veut dire être un peu tournés sur quelque chose d'autre qui leur était pas destiné. Hein. Ils sont distraits, on va dire, maintenant. Mais finalement, ils restent intelligents. Mais ils n'arrivent pas à faire les choses qu'ils devraient faire. Probablement parce qu'ils manquent de volonté. Mais ils ont une très bonne mémoire. Mmh. Donc finalement, on va commencer à distinguer les enfants qui sont intelligents de ceux qui ne le sont pas. C'est aussi toutes ces études qui vont avoir lieu sur l'intelligence, hein, les mesures de l'intelligence. Hein. On en est au début du 20e, pour effectivement essayer de critérialiser en quelque sorte, hein, de catégoriser, de classifier entre les enfants intelligents, idiots, arriérés, aliénés, qui ont des troubles de l'attention. Voilà. Mmh. Et c'est très intéressant parce que finalement, ça va donner lieu à plein d'écoles, hein, de la neurologie et la psychiatrie dans un grand spectre.
Alors, au 19e siècle, vous l'avez dit, hein, il y a eu une abondante littérature pour enfants, ouais, où on a vu, du coup, hein, ces enfants touche à tout, mis en scène dans des scènes. Alors, moi, il y en a pas mal dans le bouquin, c'est chouette, hein, vous avez mis pas mal de papiers un peu volants comme ça, avec des tracts qui étaient peut-être distribués à l'époque. On voit,
ouais,
des enfants,
ouais,
le petit Alfred, hein, touche à tout, qui se coupe, ouais, avec un rasoir, qui blesse un, ouais, passant en jouant avec le revolver de son,
ouais,
papa.
Ouais, ouais.
Enfin, ça fait un peu flipper, effectivement. Je sais pas si c'est un outil éducatif pour les parents, mais ce qui m'a frappé, moi, c'est qu'on voit autant de filles que de garçons. Je, ouais, pensais que c'était surtout les garçons, les hyperactifs.
Non, il y a même, ouais, une illustration très belle. Dans un livre d'Adrien Linden qui s'appelle Les touches à tout, hein, au pluriel d'ailleurs, et on voit une petite fille, un petit garçon, la petite fille qui bouge les pieds, etc. Il n'y a pas de différence, hein. Aujourd'hui on pense d'ailleurs qu'il n'y en a pas, simplement c'est que chez les garçons c'est plus brillant. Ils sont plus, on va dire, démonstratifs. Il y a plus d'agitation visuelle, hein, on va dire.
Mais
même
il y en a autant, en fait,
dynamique,
en réalité.
Oui, absolument. Ouais. Les filles, elles peuvent avoir une hyperactivité, je veux dire, statique. C'est-à-dire qu'elles vont bouger sous la table, on ne va pas les voir. Quoi.
Et à partir de quand, justement, on va enfin s'intéresser réellement à ces enfants un peu touche-à-tout d'un point de vue médical ?
Ben, très tôt, en fait. Hein, même au début du 20e, on commence à même organiser des classes. On a Édouard Seguin, qui est, on va dire, le père fondateur de l'orthophonie, hein, qui va proposer effectivement des classes, qui va proposer des aides particulières. Hein. Même Giroud de Bancel qui va instituer finalement une formation particulière. Hein. C'est le syllabique, par exemple. Hein, voilà, plutôt pour ses enfants, plutôt que le global qui existe déjà. Hein. Giroud de Bancel, c'est 1906, je crois. C'est très tôt, enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose des années 70. Donc on va aider ces enfants avec des méthodes particulières. Mmh. Voilà.
Je fais un petit aparté sur, on parlait de cette littérature abondante pour enfants, je fais un petit aparté sur la comtesse de Ségur, qui,
ouais,
a été, je l'ai appris dans votre bouquin aussi, finalement une femme qui a déjà aidé, guidé les mamans de ces enfants touche à tout.
Complètement, hein, extraordinaire. On parlait tout à l'heure des gardes napoléoniennes. En fait, il faut dire que la deuxième capitale, qui était Moscou, a été brûlée par le père de la comtesse de Ségur, de son vrai nom Sophie Rostopchine, qui était donc Fyodor Rostopchine, qui était un général du tsar, a brûlé la ville parce qu'il n'a pas compris la consigne. Donc effectivement, on peut se dire que c'est grâce à ça finalement qu'on a arrêté Napoléon, hein, aux portes de Moscou, parce que plutôt que de brûler la nourriture, les granges qui contenaient le blé, il a brûlé toute la ville. Donc le tsar était furieux, il l'a envoyé d'ailleurs en déportation en France, il était très bien accueilli, on ne pourrait imaginer que ça n'aurait pas dû se passer. Et si, et la comtesse finalement raconte dans ses petites histoires, dans ses petites scénettes, effectivement, enfants, des enfants agités, des enfants qui ne sont pas obéissants.
Mais comment les redresser un petit peu, quoi, hein,
absolument. Et elle a aidé les familles, puisqu'on lui doit cet ouvrage en 1855 sur la santé des enfants, dans lequel elle explique aux parents comment faire pour gérer les enfants au quotidien et comment les soigner. Et c'est finalement un peu grâce à elle que va naître tout ce courant pédiatrique au cours des années 1860-1870 en France. Mais c'est vraiment grâce à elle.
Je connaissais les malheurs de Sophie, mais pas toutes ces anecdotes.
Le bon petit diable,
voilà,
ça,
exactement. Voilà. Docteur Konofal, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans ce rendez-vous, nous allons continuer de vous conter l'histoire de l'hyperactivité et des troubles de l'attention et de ses traitements d'ailleurs aussi au fil des siècles. On a beaucoup tâtonné, vous allez voir, on a testé tous les remèdes les plus fous pour les assagir, ces enfants, du fer, de la cola, en passant par certains alcools et vins. On va vous raconter ça juste après. Restez bien avec nous sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être et notre invité du jour, il est toujours en studio avec nous, c'est vous, docteur Éric Konofal. Vous êtes médecin spécialiste des troubles du sommeil et des troubles du comportement à l'hôpital Robert Debré à Paris. Vous êtes également l'auteur du livre Histoire illustrée de l'hyperactivité, le TDAH, ses traitements au fil du temps chez Impulsion Naturelle. Alors docteur, ces enfants hyperactifs, agités, désobéissants, comme on les qualifiait à l'époque, hein, au 18e, 19e siècle, pardon, on réalise que la médecine doit s'y intéresser à un moment donné, vous nous en avez parlé tout à l'heure, et donc on doit tenter de les soigner. Quand on réalise qu'il y a un mal, on essaie de trouver des traitements. Et alors d'abord, on a commencé par des médicaments toniques. C'est quoi des toniques, justement?
En fait, les toniques viennent, ce sont des produits qui, on peut dire, stimulants. Souvent, c'est des boissons, c'est des préparations qui contiennent plusieurs principes actifs. Et on les donne surtout pour des gens qui sont, on va dire, qu'on pourrait dire aujourd'hui, des immunodéprimés, en fait. Donc, qui sont fatigués, qui sont asthéniques, neurasthéniques notamment, pour les remonter. Et on s'aperçoit finalement que leurs effets sont paradoxaux chez les gens plutôt agités, nerveux. Hein, les gens nerveux, écrira Ernest Menin, quand on les donne, finalement...
C'est comme si plus ça fait moins.
En fait, ça les calme. Alors, et c'est là où finalement, on revient sur toutes ces grandes descriptions en disant mais finalement, c'est normal, puisque finalement, les gens sont capables d'avoir une attention dirigée. Donc, ça va les calmer. En fait, plus on se concentre, et c'est vrai, on le sait, et moins on bouge. Donc on revient sur ce paradoxe entre le mouvement et l'attention, et on va les essayer, ces médicaments. Alors d'abord, on va les essayer sur toutes les populations. Hein. On a des photographies d'époque, on a des illustrations.
Il y en a beaucoup dans le livre, hein, je vous invite vraiment à les regarder.
Sur finalement des enfants à qui on donne, le matin, à l'école, hein, un petit verre de vin de Mariani. Alors Mariani, Angelo Mariani, c'est le premier qui a inventé un vin tonique, c'est-à-dire c'est un vin qui contient en fait des principes actifs. Dans le vin de Mariani, c'est du vin de Bordeaux, dans lequel on a mis une décoction de noix de cola, ça contient la caféine, et des feuilles de coca, ça contient ce que vous savez. Et donc finalement, on va donner ça pour finalement réveiller les gens. En quelque sorte. L'histoire est très belle puisque Mariani va devenir extrêmement populaire. Il va avoir en très peu de temps 8000 adhésions de personnages. Ça peut être le pape, ça peut être tous les grands médecins de la salpêtrière.
Un influenceur,
Absolument, il fait une grande promotion. Il édite même des almanachs, des livres illustrés dans lesquels il y a des descriptions de tous les médecins qui le remercient pour les propriétés de son vin. Le vin de Mariani va servir aussi à quelque chose de très important, c'est-à-dire que ça va calmer un peu l'alcoolisme. C'est-à-dire que finalement, quand on boit une boisson qui est moins titrée en alcool, mais qui contient des principes actifs, on boit moins d'alcool fort. Il faut dire qu'en France, par exemple, les enfants souffrent de maladies nerveuses liées aussi à l'alcool. Hein. C'est des alcoolofétopathies dès la naissance. Et l'alcoolisme, c'est vraiment un fléau énorme au 19e. Donc finalement, en prenant du vin de Mariani notamment, finalement, on boit moins d'alcool. Voilà, on boit moins d'alcool fort, qui sont des absinthes, par exemple, décrites dans la Sommoire de Zola. Hein. Les gens vont jusqu'à boire des fois un litre d'alcool par jour. Enfin, c'est quelque chose de fort en famille.
Et avec modération, ça existe toujours d'ailleurs ce vin. Hein.
Donc, et le Mariani va s'imposer. Et on s'aperçoit donc que finalement ce Mariani contient des principes actifs et ces principes actifs vont servir finalement de préparation de nouveaux médicaments qu'on va donner aux enfants agités.
Est-ce que du côté de l'alimentation, on a essayé de jouer aussi là-dessus en se disant est-ce que certains aliments pouvaient nuire à l'attention des enfants?
Absolument. Alors, ce sont les médecins hygiénistes qui déconseillent finalement les choses un peu grasses, les repas qui sont trop lourds à digérer et faut plutôt donner des choses qui sont riches en fibres, etc. On pourrait dire aujourd'hui les conseils hygiéno-diététiques ne feraient pas mieux. Hein, voilà. Donc, absolument. On conseille, alors ce qui est très drôle, on conseille du fer. Le fer, c'est important parce que le fer, ça sert à fabriquer la dopamine, on le sait aujourd'hui notamment. On conseille l'huile de foie de morue, on sait à quoi ça sert, c'est les oméga-3. Donc finalement, on a toutes ces bonnes idées qui étaient déjà très présentes à l'époque.
Il y a eu notamment des préparations ferrugineuses à base de fer pour lutter contre les états d'agitation, racontez-nous.
En fait, il y a même un auteur qui s'appelle Henri Scheffner, un Suisse, qui va éditer pendant 25 ans, de 1887 à 1912, une revue qui porte l'éponyme Médication Martiale et qui ne traite que de la médication martiale. Donc on imagine, pendant 25 ans, c'est un mensuel, c'est un livre assez épais dans lequel on a des médecins qui font des descriptions sur les préparations ferrugineuses, sur les préparations ferriques. C'est le peptofer, il y a plein de produits. Oui. Alors on y ajoute parfois d'autres produits, on y ajoute des sels de phosphate, même de la strychnine ou de l'arsénic en très faible quantité.
Des poisons, quoi.
Sont stimulants. Ouais. Bah alors, on sait trop bien qu'entre un poison et des fois un produit actif, un stimulant, c'est juste la dose qui change. On le sait avec la nicotine, avec le café. Donc finalement, voilà, on a effectivement des préparations qui sont faites et qui vont devenir finalement à un moment donné, bah, des boissons vont passer à des comprimés et puis même des fois des injections qu'on fait de fer. Ça existe
déjà. Chez les enfants, pas de problème.
Alors, vous l'avez dit, contexte d'après-guerre, il fallait justement préserver les vies humaines et donc fortifier notamment les enfants malades. Alors, vous avez parlé du vin, mais est-ce qu'on pouvait fortifier les enfants d'une autre façon encore ?
En fait, on leur donnait... alors, au départ, il y a eu les vins, effectivement, les vins toniques. Mais après, on a fait des boissons sans alcool. Alors ça, on le doit à Pemberton, qui a volé la recette de Mariani. C'est le Coca-Cola. Le Coca-Cola, c'est ni plus ni moins que le vin de Mariani sans le vin. Hein. Et donc, on va
sans les hyperactifs, on n'aurait pas eu de Coca, quoi, quand même. Hein,
absolument.
C'est ça,
d'ailleurs, Mariani avait rencontré Pemberton, hein, qui est l'inventeur en 1886 du Coca-Cola. Et c'est en partant aux États-Unis qu'il oublie finalement, ou qu'il casse plutôt une bouteille qui lui est destinée, parce qu'il voyage en bateau, et qui va avoir la préparation, qui va refaire cette préparation, le Coca-Cola, et ça va donner le Coca-Cola. Donc, on va donner, effectivement, et on conseille de donner des boissons aux enfants. Et à l'après-guerre, on le fait systématiquement. Hein. Il ne faut quand même pas oublier qu'on donnait des boissons, des tonifiants, comme le Tony Malt, en Suisse, le Vomaltine. On donnait des choses comme ça à l'école, même aux enfants. Et c'est quelque chose finalement d'assez récent, puisque c'est à partir peut-être des années 50 même qu'on va cesser de le faire.
Et ça avait une utilité, en fait, le coca, vous le prescrivez encore. Non,
mais... En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que notre cerveau a besoin d'éveil. Et que si on n'est pas éveillé, effectivement, on s'éparpille. Et que l'éparpillement fait qu'on se déçoit. Et que finalement... Dans le courant des années 20, des années 30, on découvre qu'effectivement, entre la fameuse neurasthénie, la maladie de Bird, qui est finalement peut-être la pré-dépression qu'on va créer plus tard dans les années plutôt 30, dans les années 40. Mais la maladie de Bird, finalement, c'est une espèce de dépression liée à un manque finalement de volonté à cause d'un problème d'attention. Donc finalement, on sait que si on ne fortifie pas ces enfants, si on ne leur donne pas des stimulants ou des toniques, ils sont enclins à ne pas réussir. Et on est dans une logique très productiviste à l'époque. Hein. Il faut que l'être, il devienne un soldat ou un bon ouvrier. Donc, il faut qu'il produise. Donc, pour produire, finalement, il faut stimuler.
Il faut être fortifié. Quoi.
Absolument. C'est cette époque-là qu'il le veut.
Est-ce qu'on avait au moins des essais thérapeutiques ou est-ce qu'on testait ça comme
l'alcool,
ça
l'alcool, le fer.
Quasiment à balles réelles sur les enfants. Allons-y gaiement. Et puis, c'est empirique.
Alors, on commence.
Il y a eu quelques morts, c'est pas
alors,
grave.
Ouais. C'est vrai que les effets thérapeutiques montrés par des études sont récents. Hein. C'est les années 50 et pas avant. Mais il faut quand même se dire aussi que si on prend par exemple les années 50, on va mettre sur le marché des produits, hein, je citerai le Largactil, il n'y a pas d'études, hein, c'est fait sur 30 cas. Enfin, je veux dire, il y a un produit qui se retrouve sur le marché et encore aujourd'hui, et qu'on y regarde de plus près sur la chlorpromazine dans les années 50, on n'a pas d'études de validité. Donc, il n'y a pas plus d'études pour ces produits-là qu'il y en a pour les autres. Hein. C'est vers les années 60 où là, effectivement, les études, elles arrivent. Hein. On l'a avec les stimulants et les psychostimulants notamment.
Mmh. Et il y a eu des accidents mortels, non, j'imagine, parce qu'on testait tant de choses chez des enfants simplement qui étaient agités ou un peu...
Alors non, parce que quand on regarde, par exemple, quand on regarde les guides thérapeutiques ou les dictionnaires, ce qu'on appellerait aujourd'hui le Vidal, hein, le dictionnaire de Moiroux, par exemple, de 1831, où on regarde les quantités, c'est des principes actifs qui sont dosés au milligramme. Hein, c'est pas,
l'arsenic, par exemple, ça a été utilisé pendant très longtemps.
Mais il y a encore des produits aujourd'hui qui contiennent l'arsenic, hein, quand on regarde même dans le Vidal encore aujourd'hui. ça porte pas ce nom-là, mais il y en a.
Alors, pour traiter le trop-plein d'excitation, on a même testé les bains froids et l'hydrothérapie en pensant que ça
allait faire
quoi.
C'est vrai que ça calme, ça. Hein, ouais, si vous avez chez l'eau froide.
Absolument, c'est les douches froides, de la salpêtrière.
On a mis des enfants comme ça face à ces traitements-là.
En fait, aujourd'hui, quand on y regarde de près, c'est quand même un peu ce qu'on fait quand on a nos enfants qui sont un peu trop agités, qui sont énervés.
Ça vous est arrivé, non, Jimmy, de les prendre sous la douche avec l'eau froide?
On le fait encore.
Vous le faites, nous non.
Alors, c'est pas forcément de l'eau glacée, mais c'est pas forcément de l'eau très chaude.
À 18, ça passe.
Non, et puis même, regardez, quand on a envie de se baigner, on est au mois d'avril, on va se baigner dans une eau qui sera peut-être à 17-18 degrés au bord de la mer en France.
On sort, on est calme, hein, c'est sûr.
Voilà, on sent mieux, ouais. Et puis on l'a, hein. Si on fait un peu de spa, on voit des fois qu'il y a des propriétés en fonction de la température de l'eau sur notre organisme, bien sûr, sur la digestion aussi d'ailleurs.
Docteur Konofel, ne bougez pas, on va continuer cet entretien dans quelques minutes.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Sans rendez-vous revient dans un instant et on va poursuivre cette immersion dans l'histoire de l'hyperactivité. Comment au XXe siècle finalement a-t-on peu à peu compris ce qu'était réellement ce trouble chez des enfants tout à fait normalement intelligents mais trop actifs? Comment ont évolué les traitements, la prise en charge de ces jeunes au fil des années? On y revient très vite, juste après un peu de musique. C'est le dernier titre de Jérémy Frérot, ça s'appelle Un homme. Vous êtes sur Europe 1 dans Sans rendez-vous et nous accompagne toujours cet après-midi, c'est vous, docteur Éric Konofal. Je rappelle que vous êtes médecin spécialiste des troubles du sommeil et des troubles du comportement à l'hôpital Robert Debré à Paris et que cet après-midi, donc, vous nous racontez l'histoire de l'hyperactivité. Alors à la fin du 19e siècle, certains commencent aussi à se dire que c'est peut-être finalement par l'éducation qu'on peut corriger les défauts d'attention des enfants agités, comme si l'attention c'était vraiment une question de volonté, hein, c'est ça?
Oui.
Et ça, on sait que c'est pas vrai aujourd'hui.
Alors non, c'est pas vrai, mais bon, en fait, l'éducation, c'est toujours une bonne chose à prendre, hein, parce que les enfants, même qui ont des troubles de l'attention, si on les remet dans un cadre, ils s'épanouissent d'ailleurs beaucoup mieux. Donc effectivement, il y a pas mal de médecins qui vont s'intéresser à ça. On peut citer Henri Vallon, qui va commencer finalement à montrer que les modèles éducatifs, une bonne école, des bons outils. Aussi pour permettre d'avancer
des
dans
règles,
ses apprentissages.
Le cadre. Absolument. Et ça c'est contribuer. Des choses que vous utilisez encore aujourd'hui.
D'ailleurs, absolument. Dans le traitement, de toute façon, je crois qu'il y a plusieurs modalités de traitement. Il y a une modalité du traitement, on vient de le dire, pharmacologique, on va dire thérapeutique, au sens médical, mais il y a aussi tout ce qui est traitement rééducation. Hein.
Donc, c'était des précurseurs, alors finalement.
Complètement, ouais. Mais comme je le disais, on a Édouard Seguin qui finalement va créer l'orthophonie. On en a d'autres qui vont créer des outils pour, par exemple, écrire de façon plus lisible, etc. Donc, on a beaucoup de choses qui vont se construire dans cette fin du 19e, début du 20e.
Et donc, on est d'accord aujourd'hui pour dire qu'un enfant hyperactif, ce n'est aucun cas un enfant qui manque de volonté, ce n'est pas un feignant, c'est autre chose.
Absolument. Alors, s'il manque de volonté, c'est neurologiquement parlant, parce que il aimerait faire quelque chose qu'il n'arrive pas à faire, qu'il n'arrive pas à faire aboutir, en tous les cas. Hein. Mais il a la conscience de ses difficultés, et donc, finalement, il en souffre.
Alors, on a parlé un petit peu des traitements tout à l'heure, mais comment on l'explique à l'époque, cette pathologie, ce trouble en tout cas, ces enfants trop nerveux qui manquent d'attention? Je crois qu'il y a eu pas mal d'hypothèses qui ont été balayées, notamment une hypothèse ORL qui m'a beaucoup intéressée dans votre bouquin. On croyait que ça venait des fosses nasales, des problèmes de respiration.
En fait, c'est le lien qui va être fait à un moment donné entre sommeil et puis attention. Et en fait, on s'aperçoit que finalement que ces enfants dorment mal, enfin ces enfants et même adultes,
ce qui est vrai d'ailleurs,
dorment mal, ouais. Absolument. Et c'est là où on va chercher les causes. Et on a un médecin d'Amsterdam, son nom c'est Guy d'Amsterdam, qui va découvrir effectivement que les enfants qui ont des affections ORL, des affections auriculaires, bah, finalement dorment moins bien et sont plus inattentifs. Il crée même un nom qui s'appelle l'aprosexie. Donc d'ailleurs, c'est amusant parce que finalement, aujourd'hui, on pourrait dire que c'est la somnolence ou l'inattention résiduelle chez des gens qui sont apnéiques. À l'époque, on appelait ça la prosexie de Guy d'Amsterdam. Je trouve ça beaucoup plus élégant. D'ailleurs, je le mets dans mes comptes rendus.
Il le met régulièrement encore en 2021.
Alors, pendant un temps, on va arrêter les toniques, les vins, les traitements et tout, miser sur l'éducation, la morale et l'école, jusqu'à l'arrivée d'une amphétamine qui va bouleverser un petit peu les attitudes thérapeutiques.
Oui, alors en plus, ce n'était pas destiné à ça au départ, hein, parce que finalement, la découverte des amphétamines comme des produits finalement toniques, ça vient de la chimie du colorant en plus. Donc, il n'y a pas de chimistes qui sont réveillés le matin en disant on va fabriquer un nouveau produit pour réveiller les gens, non. C'est de fil en aiguille qu'on le découvre. On va avoir effectivement la découverte de l'amphétamine à la fin de ce 19e, et puis ça va être mis de côté un petit peu. Il faudra attendre les années 30 pour qu'on commence à faire des essais. On va avoir effectivement en France Lecomte, on va avoir aux États-Unis Bradley, qui vont tester finalement dans les années 30 sur l'agitation, sur le manque d'attention. Et là, effectivement, on s'aperçoit que y a une meilleure attention, il y a une meilleure prise d'indice, il y a une meilleure concentration, une meilleure acuité. Et ça va devenir un peu une grande révolution au cours de ces années 30.
Alors après, il y a un autre virage, il a lieu au milieu des années 50. Et là, ce sont les neurotoxiques qui vont remplacer les neuroleptiques, avec notamment en 59 l'arrivée de la fameuse Ritaline, dont on a tous entendu parler d'ailleurs. Petit retour sur la Ritaline en elle-même. Au départ, ça n'a pas du tout été développé non plus pour le trouble de l'attention avec hyperactivité.
Alors non plus, alors c'est pas un neurotoxique d'ailleurs.
C'est un diurétique, je crois.
Ouais, c'est un diurétique, absolument. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'il y a...
Un médicament qui fait faire pipi, pour ceux qui ne savent pas.
Absolument, mais là, encore une fois, si on se replonge dans la littérature, on découvre que vers 1860, on montre que l'urée est toxique et peut entraîner des états nerveux, de nervosité, d'incapacité à réagir et être suffisamment éveillé. Et donc finalement, on se dit bah, peut-être qu'on va tester les diurétiques. D'ailleurs, aujourd'hui encore, hein, y a des études qui ont été faites avec la bubétanide, avec le furosémide, qui sont des diurétiques et que l'on donne dans l'autisme, hein, faut le savoir. Donc finalement, c'est encore, on revient en arrière. Et donc la ritaline, c'est un peu l'héritier de l'ésidron et de l'atoquinol, qui sont des produits qui ont été fabriqués par Ciba et Sandoz en Suisse au cours du début du 19e, du 20e, pardon. Et l'ésidron, c'est les années 30. Et de l'ésidron, ça va naître finalement la ritaline. Hein, qui est finalement, au départ, on cherche à fabriquer plutôt des diurétiques. Et là, encore une fois, on se dit, diurétique, ça marche sur les aliénés, ça marchait sur les aliénés, ça marchait.
Pourquoi ça ne marcherait pas sur ces enfants
et
agités
voilà,
quoi,
et, bah voilà. Et on y arrive dans les années 50. En France, la ritaline arrive sur le marché en 59, hein, c'est pas nouveau.
Et cette ritaline, elle va s'imposer de la même façon aux États-Unis et en France? On va se rendre compte de son efficacité à la même vitesse et de la même façon?
Alors en fait, aux États-Unis, dès les années 50, il y a des alertes qui sont mises sur l'amphétamine. Parce qu'il y a une consommation des amphétamines qui se fait à tout va, ne prennent pas des amphétamines que les malades, hein, malheureusement. Et donc, du coup, ils recherchent quelque chose qui pourrait avoir à peu près les mêmes effets. C'est pour ça que, en fait, cette substitution va avoir lieu d'abord aux États-Unis et elle reviendra après en Europe. Mais si aux États-Unis, effectivement, il y a cet engouement pour la ritaline, enfin pour le méthylphénidate, sur le principe actif, bah c'est tout simplement parce qu'eux font un usage très important des amphétamines.
Beaucoup plus que nous. Hein.
Qu'on n'a pas absolument en Europe. Mmh.
Alors, dans votre livre, il y a un chapitre intitulé « Troubles déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, un quart de siècle pour s'accorder ». Ça veut dire quoi concrètement? Aujourd'hui encore, tous les médecins ne sont pas d'accord sur la façon de soigner, sur ce que c'est finalement ce trouble?
Bah malheureusement, oui, parce qu'en fait, il y a beaucoup qui ne reconnaissent pas que l'hyperactivité vient de l'inattention. En fait, l'hyperactivité, c'est parce que vous faites quelque chose qui manque de coordination, parce que vous ne réagissez pas à des stimuli dans le temps et dans l'espace convenablement, parce que vous manquez d'attention sélective, dirigée et soutenue. Vous n'êtes pas assez attentif, vous faites n'importe quoi, surtout au moment où il ne fallait pas le faire. Voilà, vous bougez à un moment où il ne faudrait absolument pas bouger. C'est ça, l'hyperactivité. C'est finalement quelque chose qui vient en dysexécution, en quelque sorte. C'est-à-dire que vous ne faites pas ce que vous devriez faire. Et donc, il y a beaucoup de médecins, encore aujourd'hui, malheureusement, trop beaucoup d'ailleurs, je dirais, pour construire un mot nouveau, qui finalement s'accordent à dire « ces enfants-là sont agités, il faut les calmer ». Ce qui est complètement ridicule, parce que si vous calmez, si vous donnez un neuroleptique à un enfant qui a un trouble de l'attention, bah vous l'aggravez. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est malheureusement ce qui se produit. Donc oui, il faut revenir sur ça, et il aura fallu un quart de siècle pour que tous les médecins internationaux s'accordent. Ça a pris beaucoup de temps.
Ouais. Alors, docteur Konofal, on vous réinvitera pour parler de la prise en charge du trouble déficitaire de l'attention.
Aujourd'hui, c'était l'histoire, hein, notre thème.
Mais voilà. Juste un mot pour comprendre qu'on est encore loin d'avoir tout compris, la recherche continue. Et vous, par exemple, vous avez fait une découverte assez intéressante, notamment sur la carence en fer.
Ouais. Bah, en fait, c'est dans tout ce que j'ai pu lire. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression d'avoir absolument rien inventé, et ça, c'est clair et net. J'ai même pas innové, j'ai juste recherché des choses et je les ai mis au jour. Et je me suis dit, puisqu'à l'époque, on l'a cherché, on va le faire. Et on l'a fait à Robert Debré au début des années 2000. Et on a publié en 2004 un article qui titrait, en couverture du quotidien du médecin, c'était le 27 décembre 2004, si ma mémoire est bonne, où on montre bah, effectivement les enfants hyperactifs manquent de fer, et on vient de le publier dans les archives. Et là, effectivement, il n'y a pas eu une réaction tout de suite des médecins. Hein. Il a fallu attendre même 10 ans, pour être tout à fait clair. 10 ans après, 2014-2015, on a commencé en France à chercher, à regarder les ferritines, alors que nous, à Robert Debré, on le faisait déjà depuis 10 ans. Et en donnant du fer aux enfants, on a mené une étude en 2008 et on montre que quand on donne un sel de fer à des enfants, bah, on peut leur éviter d'en donner de la ritaline complètement, oui.
D'accord. Enfin, mieux comprendre et traiter les troubles du sommeil chez les patients avec un trouble, un TDAH, c'est aussi l'une des voies, selon vous, les plus prometteuses pour trouver un jour encore de nouveaux traitements.
Absolument. Et je crois qu'aujourd'hui, la littérature, d'ailleurs, depuis quelques années, et encore plus présente au cours des derniers mois, montre qu'on a des liens physiopathologiques entre les affections de l'éveil primaire, comme la narcolepsie, l'hypersomnie idiopathique et le trouble déficit de l'attention et hyperactivité, qu'il faut aller regarder dans le sommeil pour effectivement aller rechercher, on va dire, des marqueurs qui permettraient même très tôt de savoir si un enfant va plutôt évoluer vers une narcolepsie sans cataplexie. Donc, c'est quelque chose qu'on ne voit pas tellement. Finalement, c'est silencieux. Quand il y a une cataplexie, l'enfant tombe tout seul de sa taille, alors que quand on a juste une somnolence, c'est pas visible. Et puis une somnolence, c'est contrarié parfois par le mouvement. Quand vous êtes fatigué, quand vous êtes somnolent, vous bougez. Donc c'est pas toujours évident de savoir si la somnolence elle est primaire ou secondaire. Donc
en soignant ces troubles, on peut espérer peut-être traiter définitivement le TDAH.
Absolument, et on a aujourd'hui des médicaments qui sont qui sont actifs sur la narcolepsie. On sait très bien, ils sont actifs sur les troubles de l'attention et vice-versa. Donc, il y a une vraie recherche à mener sur qu'est-ce qui provoque finalement cette somnolence importante qui pourrait finalement être une inattention après et puis finalement une agitation subséquente pour lutter contre cette somnolence. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en cours là, actuellement en plus.
Bon, mais très intéressant. Vous reviendrez nous en parler, bien sûr. Merci beaucoup, docteur Konofal, d'avoir répondu à nos questions.
Jimmy.
Et je vais rappeler votre magnifique livre, Histoire illustrée de l'hyperactivité, le TDAH et ses traitements au fil du temps chez Impulsion Naturelle. Merci encore, docteur.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique Les mots du quotidien, on va s'intéresser à un accident redouté chez la personne âgée, la fracture du col du fémur. C'est quoi précisément? Comment l'éviter? Comment la soigner? Le docteur Jimmy Mohamed va tout nous dire. À tout de suite sur Europe 1. Votre émission Santé Bien-être sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Très heureux de vous accompagner tous les après-midi. Alors à présent, on va passer à notre séquence Les mots du quotidien. Savez-vous précisément ce qu'est la fracture du col du fémur? Il se trouve où concrètement ce col? D'ailleurs, vous allez voir, ça n'a rien à voir avec le vélo, évidemment. Peut-on prévenir cet accident qui survient le plus souvent chez la personne âgée? Comment la traiter? Jimmy va arrêter de rigoler. On va écouter surtout le micro-trottoir de Valentin Piovesan.
Je sais que c'est au niveau du bassin, non? Et c'est quand on a une chute très forte. Après, je sais que c'est assez handicapant pour la suite.
Peut-être qu'il y a une grosse inflammation, la jambe qui décuple.
Le fémur, pour moi, il est en haut de la cuisse au niveau du bassin, là où il y a l'articulation de la jambe.
Peut-être qu'il y a des personnes qui sont plus susceptibles aussi de se fracturer des os que d'autres.
Faut pas monter et pas se mettre en équilibre et toujours garder les deux pieds au sol. Et pas monter en hauteur sur des bibliothèques et trucs comme ça pour aller chercher des trucs.
Sachant que je pense que ça arrive sûrement dans des moments où il y a des chocs, je pense qu'il faut éviter tout ce qui est genre sport extrême où on se met à risque.
Et faire des oscillodensitométries tous les 5 ans pour voir l'état de nos os.
Bon, c'est un peu coûteux, mais les fauteuils pour descendre les escaliers quand on est vraiment très fragile.
Ou alors mettre de la moquette par terre pour si jamais, quand ils tombent, ça atténue au moins le choc.
Bon, on va voir tout ça, Jimmy, on va reprendre du début. C'est quoi une fracture du col du fémur? D'abord, il est où ce col?
Alors, le fémur, c'est le squelette de la cuisse. À l'extrémité supérieure, vous avez la tête du fémur. Elle va s'articuler sur le bassin. Et celle-ci est reliée au corps du fémur par le col du fémur. Et donc, la fracture du col du fémur, bah, c'est quand le col du fémur est cassé, tout simplement.
Très bien, rien à voir avec le vélo. Donc, c'est bien ce que je disais, c'est le col du fémur. On a compris que c'était tout en haut de la cuisse, vers la hanche, quoi. Je crois que c'est un accident qui est très fréquent, Jimmy, qui survient chez qui, principalement? C'est des personnes âgées, on est
d'accord?
Exactement,
des personnes âgées principalement, plutôt des femmes d'ailleurs que des hommes. C'est 50 000 personnes chaque année qui vont se casser le col du fémur et qui vont avoir majoritairement plus de 75 ans, voire souvent un peu plus.
D'accord. Alors, il faut tomber de haut ou pas? Il y en a un qui disait, oui, il faut tomber de très haut, on met un matelas pour pas tomber, pour pas se faire mal, pour amortir le coup. Est-ce que c'est forcément un gros choc ou est-ce que bah, juste tomber de sa hauteur, ça suffit?
Eh bien, tomber de sa hauteur peut suffire. Évidemment, lorsque vous avez un accident de la voie publique, vous pouvez vous casser le col du fémur. Mais ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'après 50-60 ans, eh bien, vous allez avoir de l'ostéoporose. Cette ostéoporose va diminuer la densité osseuse et aboutir à une déminéralisation. Ça veut dire que votre os va être moins solide. Et du coup, la moindre chute de votre hauteur à la maison, tranquillement,
ça
sans
suffit.
Tomber dans l'escalier, peut suffire justement à se casser le col du fémur.
Alors, ça m'est jamais arrivé, je touche du bois, mais est-ce qu'on le sent forcément? Je veux dire, c'est très douloureux, une fracture du col du fémur?
Impossible de passer à côté d'une fracture du col du fémur. Dès lors que le fémur est cassé, bah, vous ne pouvez pas marcher. Et donc, quand vous tombez, vous ne pouvez pas vous relever. Et souvent, lorsqu'on regarde la jambe du patient, elle va être en rotation externe, un peu raccourcie. Et donc, d'emblée, avant même la radio, on peut savoir s'il y a une fracture.
Vous, les urgentistes, vous voyez
ça
déjà.
Et le diagnostic se fait à la radio assez simplement.
Bon, comment ça se traite ensuite? On va à l'hôpital, on fait de l'imagerie, on essaie de confirmer, on fait quoi? On plâtre toute la jambe? Enfin, comment ça se passe?
Alors, le traitement est chirurgical. Il faut le plus souvent opérer. C'est même une urgence chirurgicale. On sait que le but du jeu, lorsqu'on vous opère du col du fémur, c'est de vous mettre debout le plus rapidement possible. Puisque, mine de rien, lorsqu'on vous dit une fracture du col du fémur, ça a l'air pas méchant, vous dites vous cassez le bras, on vous répare le bras,
on
n'en
parle plus. Ouais, c'est ça.
Eh bien, rendez-vous compte qu'un an après une intervention chirurgicale, un patient sur quatre va décéder de cette fracture.
Ah oui.
Non pas à cause de la fracture, mais à cause de la perte d'autonomie et du syndrome de glissement qui va avoir lieu secondairement à l'intervention chirurgicale. Donc finalement, ce n'est pas juste une simple fracture.
Oui, j'en ai compris. Je crois que bon, vous l'avez expliqué hein, derrière, après une fracture du col du fémur, c'est que c'est souvent compliqué. Il y a de la rééducation qui peut être longue parce qu'on parle justement de personnes souvent très âgées. Hein,
exactement.
C'est ça.
Exactement. Donc le meilleur traitement, c'est la prévention. Un, c'est lutter contre l'ostéoporose. Et donc on l'a entendu dans le micro-trottoir, faire des ostéodensitométries.
Bah oui,
puisque
c'est bien,
l'ostéoporose, ça ne fait pas de douleur. Et puis lutter contre tout ce qui peut faire chuter la personne âgée.
À la maison, par exemple, quelques conseils peut-être.
Les tapis, les circuits...
Ça paraît tout bête, hein, mais
exactement.
C'est souvent comme ça que ça arrive.
Les
hein.
chaises qui traînent un peu n'importe où, les fauteuils mis au mauvais endroit, les fils,
de télé,
le siège des toilettes qui sont trop bas, trop élevés, la douche qui n'est pas adaptée. Et puis surtout, lutter contre les troubles de l'équilibre et attention à la surmédicamentation. Les personnes âgées qui prennent beaucoup de traitements sont plus à risque de chuter que les autres.
Très bien, merci beaucoup Jimmy pour toutes ces précisions et ces conseils bien plus qu'utiles.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
La santé, le bien-être et la sexo, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous depuis 15h. Tout de suite, c'est au tour de Catherine Blanc pour sa chronique sexo, psycho. Ça dépend des jours, hein, Catherine.
Oh bah bien sûr, voilà. Tout ça, c'est chou vert et vert chou.
Exactement, on s'adapte aux questions. Vous êtes sexologue et psychanalyste à Paris. Et aujourd'hui, Catherine, il va falloir répondre à la question de Clara. On l'écoute.
Bonjour, alors j'aurais une question à vous poser. Alors voilà, avec mon copain, nous sommes en couple depuis 2 ans. Tout se passe à merveille du point de vue sentimental, mais du point de vue sexuel, c'est vraiment autre chose. Je ne ressens pas le besoin forcément de rapport sexuel. Et pour l'instant, ça n'embête pas trop mon copain. Mais ma question, c'est est-ce que notre couple pourrait durer sans une vie sexuelle? Merci à vous pour votre éclairage et puis bonne émission. Au revoir.
Merci beaucoup Clara. Alors Catherine, un couple dans lequel, encore une fois, comme hier, tout va bien, sauf là quand même, il y a de petites ombres au tableau. Sur le plan sexuel, il ne se passe pas grand-chose surtout. Mm-hmm. Elle ne dit pas que ça se passe mal, mais ça se passe peu souvent apparemment. C'est fréquent, elle a l'air assez jeune, enfin en tout cas à la voix. Elle dit que ça fait deux ans seulement qu'ils sont ensemble et très peu de rapports sexuels. C'est quelque chose de fréquent?
Oui, c'est quelque chose de fréquent parce qu'encore une fois, on est dans une société qui hypersexualise tout. Donc on a le sentiment que c'est le sujet de tout le monde. Et la compétence de tout le monde, la réalité est bien autre. Parce que justement, dans une société hyper sexualisée, on rentre tambour battant parfois trop jeune dans des sujets que l'on ne maîtrise pas, que l'on ne comprend pas. Et bien souvent, ça nuit à notre compétence à rentrer tranquillement, à créer tranquillement une relation à son corps, à son sexe et à l'autre et au sexe de l'autre. Donc oui, malheureusement, en termes d'équilibre, non pas qu'il faille absolument qu'il y ait de la sexualité, mais beaucoup de couples se retrouvent dans pareille situation, même chez les jeunes. On croit que la sexualité défaillante,
c'est en vieillissant,
mais on le retrouve également chez des jeunes. Il y a même des couples qui en effet, pour répondre à la question « est-ce que ça pourrait durer ?», il y a des couples qui se marient dans ces conditions et qui peuvent avoir une vie maritale avec peu ou pas même de sexualité.
Et donc même chez des couples jeunes, l'amour sans sexualité, ça peut fonctionner?
Oui, parce que, encore une fois, c'est la rencontre de deux individus qui ont trouvé dans cet accord, dans ce compromis ensemble, le moyen de se protéger de quelque chose de plus anxiogène, de plus difficile. Donc si ce couple depuis 2 ans est ensemble sans sexualité, c'est que les deux ont un intérêt. Quand bien même ce serait par exemple elle qui aurait une difficulté à aller vers la sexualité, le fait qu'elle ait un partenaire depuis 2 ans qui s'accommode de cela, c'est qu'il a lui aussi un bénéfice à cette situation. Donc ou de protection, ou de ne pas être remis en question dans sa compétence.
Ou qui va voir ailleurs. Enfin, ça, c'est moi qui vois le mal partout. Mais elle dit que ça n'embête pas trop, mon copain. Ça veut dire que ça l'embête un petit peu, quand même.
Peut-être que c'est lui qui l'évoque. Mais moi, ouais. Je vois, par exemple, des couples que j'ai pu suivre sur ces sujets-là, où, par exemple, madame se remet tranquillement, pour être dans le même cas que là, madame se remet tranquillement dans le cadre d'un désir qui se retrouve ou qui se remet un peu en marche. Et c'est à ce moment-là que monsieur peut avoir des symptômes, perte d'érection ou éjaculation trop rapide. Donc ça veut dire que le symptôme, il se passe de l'un à l'autre pour justifier de ne pas se faire parce qu'il est un sujet inquiétant pour l'un et pour l'autre. C'est-à-dire qu'il y a toujours le symptôme d'un individu. Quand je dis symptôme, je ne parle pas en termes de maladie, je parle en termes de fonctionnement symptomatique. Donc il y a le symptôme d'un individu, mais dans le cadre d'un couple, il ne peut pas se départir complètement de la relation. Donc il y a aussi l'intérêt, le bénéfice de l'autre, ou bénéfice, quand je dis bénéfice, ce n'est pas que heureux, hein, c'est le bénéfice que notre inconscient y trouve et qui fait notre participation, y compris dans notre souffrance.
Je reviens sur ce copain qui dit que ça n'embête pas trop, dit-elle, de ne pas avoir de rapport sexuel. C'est quand même le risque, quand même, c'est qu'il aille voir ailleurs. C'est ce qu'elle craint, je pense. C'est pour ça qu'elle nous pose cette question. Il y a des couples qui se séparent pour ça aussi.
Bien sûr qu'il y a des couples qui se séparent pour ça, encore une fois, parce que notre société nous enjoint de vivre de la sexualité envers et contre tout, et de façon particulièrement gourmande et importante. Donc il y en a certains qui, poussés par cette injonction sociale, ont besoin d'aller voir ailleurs. D'autres, par questionnement personnel ou par désir, bien sûr. Mais encore une fois, le nombre de femmes, et c'est assez inquiétant, je trouve, quand le nombre de femmes qui vont pouvoir consulter, soit parce qu'elles n'ont pas de désir, soit...
C'est ce que vous voyez au quotidien, vous, en consultation.
Sûr, ouais. Bien sûr, et toujours au nom, non pas de leur inquiétude pour elles-mêmes, de quelque chose qu'elles auraient laissé s'endormir en elles.
De leur conjoint qui va s'enfuir.
Du conjoint qui ne serait pas bien, qui serait malheureux, qui souffrirait et qui partirait. Donc en fait, le souci n'est pas de retrouver une sexualité ou de trouver une sexualité pour soi et son épanouissement personnel, mais pour ce qui ferait mon épanouissement et ma sécurité, à savoir être en couple. Donc c'est ça, on se retrouve très 19e au devoir de sexualité pour maintenir le couple.
Elles vous consultent pour sauver leur couple et pas pour se sauver elles-mêmes, hein,
absolument,
c'est ça ?
Absolument.
Merci beaucoup Catherine,
je vous en prie,
pour tous ces conseils avisés comme toujours. Et donc à demain, tout de suite, c'est Historiquement Vôtre avec Stéphane Bern et Mathieu Noël. Ils vont nous raconter l'histoire sans se la raconter. Bonjour messieurs.
Bonjour Mélanie. Aujourd'hui, ils se sont mis au parfum. Eh oui, mais je ne sais pas si vous utilisez parfum, mais on va parler de Jean-Louis Fargeon, le parfumeur de la reine Marie-Antoinette, de Jacques Guerlain, l'un des grands noms de cette célèbre dynastie de parfumeurs modernes. Et vous avez trouvé un parfumeur aussi, non ?
Oui, un parfumeur, c'était pas son métier. Et puis, il avait pas vraiment besoin de parfum, vu qu'il sent naturellement bon. Car Alain Delon ne transpire pas. Je sais pas si vous le saviez, mais Alain Delon a créé un parfum qui s'appelle tout simplement
Alain Delon.
Vous êtes fort.
Merci beaucoup, messieurs. Je vous souhaite une excellente émission. Nous serons à l'écoute et vous aussi, surtout, restez sur Europe 1.